Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives de la région avec au sommaire cette semaine. Les robes noires et les enseignants dans la rue, nous irons dans une manifestation à Montpellier pour écouter leurs revendications au micro de Radio Escapade. La rénovation urbaine du quartier prioritaire de Vauvert dans le Gard a désormais sa maison de projet. Inaugurée la semaine dernière, elle fera le lien entre les habitants et les acteurs de cette rénovation. Le préfet du Gard, Didier Loga, nous expliquera tout au micro de Radio Système. Dans un petit village de Lozère, à Vébron, Christelle, Nicolas et Sylvestre ont ouvert une épicerie associative, la Chopa, les Chopes en occitan. Radio Barthas est allé percer les secrets de fabrique de ce qui est aujourd'hui le dernier commerce de la commune. Un colloque sur les inégalités entre les sexes aura lieu à Montpellier ce week-end. Radio Aviva a interrogé deux des professionnels qui en sont à l'initiative. Et puis, à la fin de ce journal, nous ferons quelques pas de danse avec Radio Alliance Plus à l'occasion du 30e Festival Flamenco qui se déroule jusqu'à dimanche à Nîmes, dans le Gard. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives de la région. La mobilisation contre la réforme des retraites rassemble de nombreux corps de métiers dans les différents cortèges chaque semaine. Exemple encore à Montpellier, jeudi 9 janvier, où, en plus des cortèges syndicaux plus habituels, un groupe d'une cinquantaine de manifestants vêtus de robes noires protestait, les avocats venus eux aussi défendre leur profession. Quelques mètres plus loin, une très importante délégation d'enseignants et de professionnels de l'éducation était venue elle aussi dénoncer les mesures prises par le gouvernement ces dernières années. Le témoignage d'un représentant des avocats, puis d'un représentant du corps enseignant.
Pourquoi les avocats aujourd'hui sont dans la rue ? Tout simplement parce que nous avons une caisse de retraite autonome, et non pas un régime spécial, qui est autofinancé aujourd'hui, donc qui ne coûte rien à l'État. Et contrairement à ce que laisse entendre le gouvernement, nous sommes solidaires parce que nous donnons 80 à 100 millions d'euros par an aux autres caisses qui sont déficitaires. Et pourtant, sans doute pour aller chercher l'argent, on veut nous supprimer cette caisse, et le résultat direct que ça va faire, d'une part, c'est que les cotisations vont doubler et les pensions, elles, vont diminuer, surtout pour les revenus déclarés inférieurs à 40 000 euros. Donc, dans tous les cas, que ce soit les anciens ou les nouveaux, tout est perdu. Alors, les gros cabinets, ça va leur faire un coup, mais ça va survivre. Mais le petit cabinet, c'est-à-dire les petits cabinets d'avocats qui, eux, sont surtout tributaires de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire les gens, en gros, qui gagnent moins de 1 000 euros par mois, qui ne peuvent pas se payer un avocat, c'est l'État qui leur paye leur avocat. Eh ben, ces cabinets d'avocats-là, ils sont très fragiles financièrement. Et en fait, tout simplement, les petits cabinets, ils vont mourir. Et le problème, c'est que ce sont ces petits cabinets qui font ces dossiers juridictionnels, qui défendent les pauvres, les plus démunis, comme je le dis là. Donc tout simplement, avec cette réforme, je crains que l'accès aux droits soit fragilisé. Et au-delà de cela, il y a beaucoup de mes confrères avec qui je discute qui me disent « Si la réforme, elle passe, ah ben, moi, je vais abandonner la profession. Hein. Je préfère être juriste. Hein. Être juriste en entreprise, on travaillera moins, on gagnera plus, hein, pour certains. » C'est une grève dure dans laquelle on est rentré, qui date depuis le mois de septembre maintenant. Avec les confrères, on commence à être un peu fatigués. Certains, tout simplement, ils ont des urgences, ils ne peuvent pas se permettre de venir. C'est très compliqué actuellement. Nous n'avons qu'une seule réponse de la part du gouvernement, c'est le silence du mépris. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment très en colère.
Alors cette banderole, c'est la banderole de l'AG Éducation de Montpellier alentour. Donc l'initiative, c'est de faire un cortège éducation qui rassemble plusieurs collègues de syndicats différents dans la manifestation d'aujourd'hui. Alors au niveau des enseignants, ben, tout le monde est révolté évidemment contre le projet de réforme des retraites. On a aussi des revendications dans notre secteur. Il y a l'école publique qui est en train d'être détruite et on s'en rend tous compte. Donc effectivement, les professeurs sont très très remontés contre le gouvernement. Ils sont présents aujourd'hui, comme sur toutes les journées de mobilisation depuis le 5 décembre. On se rend compte que le but finalement, c'est d'avoir de moins en moins de fonctionnaires et d'avoir des contrats qui sont beaucoup plus précaires. Des contractuels qui sont embauchés massivement dans l'éducation. Et donc on sent très bien qu'ils veulent moins de fonctionnaires et ils font tout pour nous pousser psychologiquement vers la sortie. Ça, on le sent bien, et la rupture conventionnelle, ça fait partie des mesures qui sont là pour ça. Puis ils savent qu'on est à bout avec toutes les missions, les missions supplémentaires qu'on nous oblige à remplir, et puis les heures supplémentaires qui sont maintenant imposées, le management agressif qui nous arrive dessus à grands pas. la rupture conventionnelle, en fait, elle est là pour nous dire, si vous voulez sortir, allez-y, on a une rupture conventionnelle. Et on se leurre pas du tout là-dessus.
Même si la grève dans ces deux secteurs passe plus inaperçue que dans les transports ou l'énergie, ces avocats ou enseignants en lutte n'en ont donc pas fini avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Un reportage réalisé par Antoine Deperret de Radio Escapade. La rénovation urbaine des quartiers prioritaires se poursuit depuis quelques années dans les grandes villes du Gard, mais aussi dans les villes moyennes du département, comme Vauvert. La commune a inauguré jeudi 9 janvier sa maison du projet, qui fera le lien entre les habitants du quartier prioritaire et les acteurs de cette rénovation urbaine. Dominique Père de Radiosystème en a profité pour interroger le préfet du Gard, Didier Loga, sur les enjeux du renouvellement urbain à Vauvert, mais aussi plus généralement dans le Gard.
C'est beaucoup d'argent, il passe par l'intermédiaire d'un organisme qui s'appelle l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, l'ANRU. Donc elle va apporter ici à Vauvert 3 millions d'euros. Elle apporte ailleurs, c'est évident, ça dépend des quartiers respectifs. Hein, sur Nîmes, on est au-delà de 100 millions d'euros, bien sûr, parce que ça dépend. Quand vous êtes à Pissamaval-de-Gour, les dimensions sont différentes, évidemment. Mais oui, il y a un soutien important de l'État, mais pas seulement. Hein, il y a le département, il y a la région qui apporte de l'argent. Donc il y a une action de l'ensemble des collectivités, de l'État, pour essayer de changer le quotidien de ces quartiers, pour lesquels, c'est vrai, malheureusement, dans le Gard, nous sommes largement pourvus. Hein.
L'idée générale, lorsqu'on rénove un quartier, c'est quoi ? C'est de l'ouvrir ?
Exactement. C'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique là-dessus. Très souvent, vous avez raison, c'est ce qui se fera par exemple sur le quartier de Pissemin à Nîmes, qui est un gros quartier avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, donc c'est sans commune mesure avec celui des Costières ici. Mais effectivement, très souvent, on ouvre, c'est-à-dire qu'on démolit, on fait en sorte que ce soit plus aéré. Mais dans d'autres endroits, ça sera d'autres approches. On va créer des équipements supplémentaires. Ici, par exemple, en dehors...
On est dans le périurbain, hein. On n'est pas dans l'urbain, mais quand même, il faut tenir compte qu'il y a des difficultés.
Oui, bien sûr. Et ici, à Vauvert, on s'adapte à la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est certes des démolitions, là aussi, l'Ousta, où je l'ai cité, mais c'est effectivement des constructions, la maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, qui va être un équipement important, très attendu sur le... évidemment, comme tout ce qui touche la santé publique sur ce quartier. Bon, donc là, chacun des projets a sa propre logique, et cette logique, elle est définie par les élus et par les habitants. C'est ce qui a été fait et bien fait ici à Vauvert.
Vous avez voulu saluer aussi donc le travail qui a été fait en amont, malgré les financements qui n'arrivaient pas. Parce que...
Vous avez raison, la politique de la ville, et c'est pour ça qu'on a tant insisté, Jean-Denis et moi, sur le fait que les choses allaient se traduire en actes concrets très vite et que des choses étaient déjà commencées, comme la démolition de l'Oustau. Mais effectivement, la politique de la ville, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Il y a des études. Les études, quand vous avez demandé à un architecte comment il faut faire évoluer un quartier, il ne vous dit pas en deux minutes sur le coin d'une table, voilà comment il faut faire. Il réfléchit. Il écoute. Il faut l'implication des gens. Il faut que les gens qui appartenaient ici à Vauvert au Conseil citoyen puissent être entendus. Il faut que ça rentre quand même dans les possibilités de la commune, parce que la commune ici à Vauvert n'est pas richissime, donc il faut arriver à trouver... Il faut faire tout ça, il faut arriver à trouver un projet qui rentre bien dans ce schéma, et ici à Vauvert ça a été fait, et je crois que le projet est ambitieux.
Le préfet du Gard, Didier Loga. La première tranche des travaux à Vauvert devrait commencer dès ce mois-ci et se terminer en 2024. Dans un petit village de Lozère, à Vébron, Christelle Nicolas et Sylvestre ont ouvert il y a un an et demi une épicerie associative, la Choppa, les Chopes en occitan. Non seulement les habitants peuvent y trouver des produits locaux comme les légumes, la viande, des tas de confitures, jus, du bio, le tout réellement accessible, mais en plus et surtout, ils y viennent pour y trouver un lieu familial, chaleureux. Cette épicerie, c'est le lieu à Vébron qui rassemble. Nicolas, Sylvestre et Christelle au micro de Cléo Esteban de Radio Bartas.
Je m'appelle Sylvestre, j'habite à Vébron depuis bientôt 17 ans.
Vébron, c'est 40 personnes l'hiver, 400 l'été, deux bars hôtels qui ne fonctionnent que l'été, une pizzeria qui fonctionne à l'année pendant les week-ends,
une poste,
une mairie, une école et puis c'est tout. Voilà. Enfin, la Choppa. Ne pas oublier l'essentiel, la Choppa.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans et je tiens l'épicerie La Choppa. Il y avait déjà une épicerie en place à Vébron et la dame qui tenait l'épicerie voulait pas continuer. Avec les copains, on a discuté, on s'est dit que c'était pas possible que l'épicerie ferme. Il fallait reprendre cette épicerie et on a fait le choix de la reprendre en associatif. avec Christelle et Sylvestre. On a pris l'épicerie, c'était de toute façon dès le départ pas pour gagner de l'argent, on savait très bien. C'était plutôt pour créer du lien dans le village.
On a trouvé que ça tombait sous le sens, enfin qu'il fallait absolument qu'on saisisse l'occasion, nous qui nous plaignions de n'avoir aucun commerce à l'année, de se saisir de cette occasion pour ouvrir quelque chose, pour que ça tienne, que ça soit un lieu de vie, etc. On a la moitié des produits qui sont des produits du terroir, l'autre moitié c'est de l'épicerie générale qui permet à chacun de trouver son éponge, sa bouteille d'huile, son sucre, etc. Le fait d'être une association nous amène à avoir moins de charges. Ça nous fait des produits qui sont vraiment accessibles à tous, quoi, dans les produits locaux. Quand on a du miel qui arrive à peine 15 euros le kilo, voilà, on est très bien placé, les gens le savent, viennent de plus en plus pour ça.
Je peux acheter le miel de tata, je peux acheter des légumes de papa. Et on peut aussi acheter des tisanes de maman dans notre Sylvestre. Je peux acheter des glaces à fraises.
J'aime vivre avec les gens, j'aime le collectif. C'est même une nécessité, en fin de compte. Et voilà, puis c'est un lieu de rencontre sociale. Donc, le dimanche matin, y a une personne qui part et qui ramène des huîtres pour tout le monde. Et du coup, on se fait une petite dégustation dans ou devant l'épicerie avec un petit verre de blanc, voilà, pour passer une matinée sympa et conviviale, encore une fois, pour créer du lien. Donc, on fait ça. Ensuite, il y a un rémouleur qui vient de temps en temps, pareil, devant l'épicerie pour proposer d'affûter les couteaux. Du coup, une fois de plus, ça crée un regroupement de personnes. Et voilà, ça implique des discussions, des rencontres, du lien.
Un reportage de Cléo Esteban de Radio Bartas. Pour retrouver Christelle, Nicolas et Sylvestre, un peu de chaleur ou bien des bonnes boissons locales, il vous suffit de venir à Vébron et de chercher l'unique commerce du village, un jeu de piste qui devrait être accessible à tous. L'appel au féminin, c'est le nom d'un colloque participatif. Il est à l'initiative de Yaël Catrinet, thérapeute, Christelle Fossé, coach de vie, Catherine Darbor, formatrice en sonothérapie, et Mireille Scala, biopsychogénéalogiste. Quatre demi-journées sont prévues, comme les quatre thèmes que sont l'implication sociétale, le développement personnel, l'engagement écologique et la culture. 24 femmes et hommes interviendront au Quorum de Montpellier ce week-end lors d'échanges interactifs et de propositions débattues avec le public présent. Catherine Darbor et Mireille Scala expliquent les attentes de ce projet au micro de Thomas Duplex de Radio Aviva. Mais avant cela, une anecdote de Mireille Scala sur le nom de l'association qu'elles ont créée.
Nous nous sommes rencontrés un 18 juin, d'où le nom, l'appel au féminin.
Référence à l'appel du général de Gaulle, voilà. Du 18 juin 40.
Voilà, et c'est comme ça qu'on a gardé ce 18, hein. Voilà, et on s'est dit, mais au lieu de chacune œuvrer dans son coin, essayons de faire du lien, parce que nous sommes convaincus que notre société est en transition et qu'elle a besoin des valeurs du féminin. Cet appel au féminin, c'est aux valeurs du féminin, c'est les valeurs qu'incarne le féminin et qui doit s'expandre pour qu'il y ait une complémentarité, une égalité entre le féminin et le masculin.
Parce que quand on parle des valeurs du féminin, elles sont tout autant chez les femmes que chez les hommes. C'est comme dans le taoïsme, on a l'équilibre entre les deux forces antagonistes complémentaires, le yin et le yang. Voilà, là on a le féminin, le masculin, qu'on a tous à équilibrer en soi. Mmh. Et comme actuellement le féminin est plutôt... pas tout à fait honoré à sa juste valeur. Voilà, on a eu envie vraiment de revenir à ses valeurs et particulièrement par rapport à la prise de soin qui est particulièrement une valeur féminine. Et il y a besoin de prendre soin des humains, besoin de prendre soin de la planète. Il y a urgence. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ces mouvements-là sont actuellement très présents. On est dans une période de profonde mutation, hein. Les historiens ont repéré que tous les 500 ans, on change de paradigme. Et donc, on est vraiment en plein dans ce gros changement.
Ouais, je vais vous proposer un autre cycle, un cycle de 50 ans qui a commencé avec la guerre 1918 où les femmes ont pris la place des hommes dans le travail. 50 ans après, nous avons eu 1968, qui a été la révolution sexuelle et où la femme a vraiment pris de plus en plus de place. Et 2018, avec hashtag MeToo, où la femme a libéré la parole. Voilà, et donc nous accompagnons cette libération de la parole de la femme.
Et le colloque participatif L'appel au féminin, c'est à retrouver samedi 18 et dimanche 19 janvier au Quorum à Montpellier. Informations et modalités d'inscription à retrouver sur le site internet appelauféminin.com. Et jusqu'à dimanche, Nîmes vit à l'heure espagnole. Le 30e festival flamenco, c'est un in au théâtre et dans d'autres lieux de Nîmes, dans le Gard. Spectacles, conférences, séances scolaires, photographies, expositions, cinéma au sémaphore. Et c'est aussi un off très dynamique pour les fins de soirée. François Noël, directeur du théâtre, nous dit les objectifs du festival où se côtoient grands noms et figures montantes de la danse, du canté et de la guitare.
C'est assez incroyable d'être arrivé à 30 ans, d'autant que j'ai connu le premier, pas du tout même dans les mêmes fonctions, mais j'ai connu le premier concours qui a vraiment inauguré tout ce qui allait suivre depuis. Oui, c'est important à plus d'un titre. Je pense que d'abord c'est important parce que c'est un festival qui est très bien installé, qui a atteint une forme de maturité qui est à la fois belle mais aussi joyeuse, mais aussi excitante. Et donc c'est important dans ce sens-là, c'est important aussi dans le fait que l'arte flamenco est maintenant devenue un petit peu nîmois et même de plus en plus chaque année, l'arte flamenco a vraiment acquis ses lettres de noblesse ici à Nîmes, mais pas seulement parce que ça concerne aussi la région. Pour vous donner un ordre d'idée, 50% du public qui fréquente le festival et d'origine locale, donc ville, agglo, mais 50% du public est aussi d'origine régionale, nationale et internationale. Donc ça, voilà, ça veut dire que ça rayonne bien au-delà de la ville. Je pense que dans la région, notamment, il y a une vraie aficion pour le flamenco et qui se retrouve dans ce festival. Chaque année, 30 ans, c'est évidemment un cap. J'ai voulu qu'il soit vraiment tourné vers l'avenir. J'ai pas voulu qu'on repasse le passé en invitant tous les grands qui ont participé au festival. 30 ans, 30 jours, 30 artistes. Voilà, c'est pas tellement ça que j'ai voulu faire. Au contraire, essayer d'imaginer l'avenir, de l'inventer avec les artistes qui sont là cette année. Voilà.
François Noël, directeur du théâtre de Nîmes. Ces jours intenses de flamenco se termineront dimanche. Il ne reste que quelques places pour ce week-end car c'est un festival désormais international. Renseignements au 04 66 36 65 00 et billetterie au 04 66 36 65 10. Un reportage réalisé par Sylviane Vigegrod-Magnette pour Radio Alliance Plus. Et c'est déjà la fin de ce carnet de région. Merci aux radios associatives qui ont aidé à le préparer et merci aux radios qui l'ont diffusé. Merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. À la semaine prochaine.